Bonsoir à tous et à toutes. Au micro, Mouhamadou Oumfa. Bienvenue dans le monde aujourd'hui, édition du mardi 6 décembre 2022. Il est 18h30 temps universel. Voici le sommaire. Coupe du monde de football Qatar 2022, le Maroc vient au bout de l'Espagne et atteint les quarts de finale pour la première fois. Le Rwanda accuse la communauté internationale, dont les États-Unis, d'exacerber la crise dans l'est de la RDC. Menacé de destitution, le président sud-africain Cyril Ramaphosa lance une contre-attaque. Le président chinois Xi Jinping, attendu demain en Arabie Saoudite pour une visite de 3 jours. Ici aux États-Unis, les électeurs de Géorgie se rendent aux urnes pour le second tour de la sénatoriale. Pour commencer ce journal, la page spéciale consacrée à la Coupe du Monde, ce sera avec Eric Manirakiza.
Bonsoir, Mouhamadou.
Salut Eric. Alors, le Maroc vient de nous offrir une qualification historique pour les quarts de finale.
Oui, les Lions de l'Atlas ont pris le dessus sur les Espagnols, champions du monde de 2010, dans une séance où trois Espagnols ont manqué leur tentative. Toujours à égalité à l'issue de la prolongation, 0-0. Le Maroc et l'Espagne se sont neutralisés au tir au but au stade Education City à Doha. Je suis en ligne avec Tarsis Harelimana, journaliste olympique indépendant et spécialiste du ballon rond. Tarsis, premier quart de finale de Coupe du Monde pour le Maroc. Nous avons la possibilité d'écrire l'histoire, avait annoncé la couleur Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l'Atlas.
Oui, le nouveau sélectionneur, il a 3 mois à la tête de cette sélection. C'est la 4e équipe africaine qui atteint ce stade de compétition après Cameroun, Sénégal et Ghana. Donc c'est une équipe de Regragui qui a joué un beau football, approprié face aux champions du monde 2010, une défense sans reproche, animée bien sûr par Achraf Hakimi et un gardien superbe en forme et bien avec ses 3 tirs qu'il fait sortir, Yassine Bounou, impeccable face à Pablo, à Soler et à Busquets. Voilà, donc je pense que c'est mérité pour cette équipe du Maroc qui a fait trembler le grand et même fait douter l'Espagne jusqu'au bout et jusqu'au tir au but.
Tarsis, le portier marocain qui rappelle le souvenir de Badou Zaki.
Oui, Badou Zaki, j'ai connu d'ailleurs, donc c'est une spécialité marocaine, mais il faut dire que François Mabounou est un beau gardien et notamment il étale ses exploits. Je pense qu'au niveau des tirs au but, on sentait cette équipe du Maroc est très fatiguée, mais je ne sais pas ce qui s'est passé avec Walid. Il les a donné peut-être des conseils et puis Bounou était impeccable. Et ben, il y a eu d'autres aussi, Hakimi et Ziyech Marqué.
Karim Ben Amor est également avec nous. Il est journaliste sportif à Tunis. Karim, l'histoire au bout du suspense, eh bien, le Maroc a surpris l'Espagne au tir au but.
Oui, exactement. Hein. Finalement, les tirs au but qui portent chance à une équipe africaine. On se rappelle toujours le mauvais souvenir du Ghana en 2010. Voilà, quelques statistiques peut-être. Eric, c'est la 4e équipe africaine à se qualifier au quart de finale, hein, après le Cameroun, le Sénégal et le Ghana. C'est la première équipe arabe aussi. C'est très important à arriver à ce stade de la compétition. Je voudrais aussi signaler que à ce niveau, c'est la seule équipe non européenne ou sud-américaine à rester encore en lice. C'est quelque chose de très important, même pour l'avenir du football. C'est la seule équipe novice à ce stade de la qualification, puisque toutes les autres équipes sont au moins arrivées au quart de finale. Et puis bon, finalement, signalons que Walid Regragui est devenu le tout premier entraîneur africain à atteindre les quarts de finale de la Coupe du Monde. Excusez du peu.
Karim, vous avez suivi, est-ce que le retour de Ziyech dans cette sélection marocaine a boosté cette équipe?
Moi, je pense que c'est surtout l'arrivée de Walid Regragui qui a donné beaucoup de confiance aux joueurs. Il leur a parlé individuellement. Il s'est déplacé, selon ses dires, dans une interview pour leur donner ce qu'il attend d'eux. Et le retour de Ziyech, l'arrivée, le retour de Boufal, la Mrabat, ramener les cadres, des gens, des joueurs expérimentés qui connaissent le haut niveau, conjugués aux autres équipes, a finalement libéré ces joueurs qui se sont aujourd'hui littéralement sacrifiés pour pouvoir réaliser cet exploit.
Tarsis, en quelques secondes, le Maroc, c'est le seul représentant non européen ni sud-américain en quart. Et le Maroc attend le vainqueur du dernier huitième entre le Portugal et la Suisse qui s'affrontent tout à l'heure. Comment faudra-t-il aborder les quarts de finale?
Bon, je pense que les quarts de finale seront difficiles pour toutes les équipes. Et là, je pense que, quelle que soit la Suisse, quel que soit le Portugal, je suis étonné de voir le style appliqué aujourd'hui tactiquement par Walid face au Maroc. Ça peut être aussi la même chose face au Portugal, qui ne m'a pas impressionné.
Karim, le Maroc, dernière sélection africaine encore en lice, est-ce que il aura l'occasion de rejoindre le dernier carré samedi?
On l'espère, mais moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est la sortie de ce qui m'inquiète, c'est la paire centrale, hein, de la défense centrale, puisque Naef Aghed est sorti sur blessure, et puis le capitaine Romain Seyss a été touché à la cuisse gauche, il a terminé carrément sur une seule jambe. Je ne sais pas si on va pouvoir récupérer ce duo extrêmement important dans l'axe central de la défense marocaine. J'espère que la profondeur du banc du Maroc permettra d'injecter du sang nouveau. Et puis bon, ils ont jusqu'à samedi pour récupérer, parce qu'on a vu combien le Maroc joue avec beaucoup d'énergie et dépense énormément d'énergie. J'espère que les joueurs ne seront pas grillés et ils auront pu récupérer samedi contre le Portugal ou la Suisse.
Qualification donc marocaine face à l'Espagne au tir au but. Il s'agit de la deuxième séance de tir au but après celle entre le Japon et la Croatie hier lundi qui a tourné en faveur des Croates vice-champions du monde. Merci à Tarsis Alelimana qui se trouve au Canada et à Karim Ben Almor qui se trouve à Tunis, à suivre tout à l'heure le Portugal contre la Suisse.
Merci Eric, vous nous revenez tout à l'heure pour les dernières nouvelles de la rencontre entre la Suisse et le Portugal. On poursuit ce journal pour parler du ministre rwandais des Affaires étrangères qui accuse la communauté internationale d'exacerber la crise dans l'est de la RDC après que les États-Unis ont exhorté Kigali de cesser tout soutien supposé aux rebelles du M23. Le point avec Abdourahmane Dia.
Dans un communiqué, le chef de la diplomatie rwandaise, Vincent Biruta, a affirmé que Paul Kagame et Anthony Blinken ont eu de bons échanges, mais que des différends demeurent sur la compréhension du problème qui prévaut dans l'est de la RDC. L'approche erronée de la communauté internationale continue d'exacerber le problème, a-t-il poursuivi. Pour lui, les problèmes de sécurité du Rwanda doivent être pris en compte, poursuivant que le M23 ne doit pas être assimilé au Rwanda. Lors d'un appel dimanche avec le président rwandais Paul Kagame, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a dit clairement que tout soutien externe à des groupes armés non étatiques en RDC doit cesser, y compris le soutien du Rwanda au M23. Les combats dans l'est de la RDC avec les rebelles du M23 ont exacerbé les tensions avec le Rwanda voisin que la RDC accuse de soutenir la rébellion. Kigali nie toute implication.
La capitale du Tigré, Mekele, a été reconnectée au réseau électrique national après plus d'un an de coupure. En raison de la guerre dans cette région du nord de l'Éthiopie, a annoncé ce mardi soir la Compagnie nationale d'électricité. Cette annonce intervient un peu plus d'un mois après la signature d'un accord de paix le 2 novembre entre le gouvernement fédéral éthiopien et les rebelles tigréens destinés à mettre fin à 2 ans de conflit. L'accès et les communications à une partie du nord de l'Éthiopie, dont le Tigré, sont limités ou interdit et il est impossible de vérifier de manière indépendante la situation sur le terrain. Des hommes armés ont attaqué lundi une patrouille de police à proximité d'un marché dans le nord-ouest du Nigeria, proche de la frontière avec le Niger, tuant 4 policiers et 2 civils, a-t-on appris aujourd'hui auprès de la police locale. Les assaillants, arrivés à moto, ont ouvert le feu sur un fourgon de police stationné à l'extérieur du marché du village de Yar-Boutoulou, dans l'état de Sokoto. Le nord et le centre du Nigeria sont le théâtre d'activités de groupes criminels, appelés localement bandits, forts parfois de plusieurs centaines de membres, qui attaquent et pillent des villages, tuent leurs habitants ou les enlèvent contre le paiement de rançons. En Afrique du Sud, le Parlement a annoncé le report de l'examen du rapport accusant le président Cyril Ramaphosa de corruption la semaine prochaine. La session devait décider ce mardi de lancer ou non une procédure de destitution sur la base du rapport d'une commission indépendante selon lequel le chef de l'État a pu commettre des actes contraires à la loi. Jean-Roger Pion nous en dit plus.
Le président sud-africain a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle lundi pour invalider le rapport qui l'accable. Dans la foulée, l'Assemblée a officiellement reporté la séance pour permettre aux députés de siéger au Cap. En l'espace d'une semaine, Cyril Ramaphosa, 70 ans, est passé du statut de favori pour un second mandat à premier président de l'histoire du pays à être menacé de destitution. Après plusieurs jours d'incertitude et de tension, il a réussi à calmer le jeu. Aux prises avec un scandale retentissant, le président sud-africain a rallié son parti et gagné du temps. Mais le risque d'une destitution n'est pas complètement écarté et restent les doutes sur sa probité après la découverte de l'IAS dans un canapé chez lui. Sur le plan politique, le chef de l'État a reçu lundi le soutien officiel de son parti, l'ANC, au pouvoir depuis la fin de l'apartheid à l'issue d'une réunion marathon de ses dirigeants. L'atout est de taille, la parole de l'ANC qui choisit les chefs d'État depuis 1994, agissant comme un bouclier.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président chinois Xi Jinping est attendu demain mercredi en Arabie Saoudite pour une visite de 3 jours, la première dans le royaume pétrolier depuis 2016. L'annonce a été faite par les médias d'État saoudiens. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le roi Salman lui-même va co-présider avec Xi Jinping un sommet auquel va assister le prince héritier Mohamed Ben Salman. Le président chinois va aussi rencontrer des leaders d'autres pays arabes. Au-delà de l'énergie, les deux dirigeants vont discuter d'accords potentiels pour permettre aux entreprises chinoises de s'impliquer davantage dans des méga-projets au cœur de la vision 2030 du prince Mohamed Ben Salman. Ces projets comprennent la construction en cours d'une mégapole futuriste de 500 milliards de dollars appelée NEOM. Cette ville va dépendre de la reconnaissance faciale et d'autres technologies de surveillance utilisées en Chine. Les États-Unis voient d'un mauvais œil ce rapprochement avec leur rival chinois. Washington accuse Riyad de soutenir son autre rival, la Russie, dans sa guerre contre l'Ukraine en maintenant les prix du pétrole à un niveau élevé, ce que les Saoudiens démentent. La dernière visite de Xi Jinping en Arabie Saoudite remonte à 2016.
Ici aux États-Unis, les Américains votent ce mardi dans l'État de Géorgie pour le second tour afin de départager 2 candidats au Sénat américain. Un pasteur démocrate fait face à un candidat républicain et l'issue du vote aura des effets pour les 2 prochaines années. Le point avec Nanita Lani.
Ce scrutin oppose le sénateur sortant, le démocrate Raphaël Warnock, à l'ancienne star du football Herschel Walker, un républicain soutenu par l'ancien président Donald Trump. Les 2 candidats ont obtenu chacun 50% des voix au premier tour du 8 novembre. Quelque 1,9 million de personnes sur les 7 millions d'inscrits ont déjà voté de façon anticipée. Une victoire démocrate va conforter la très fine majorité du parti de Joe Biden au Sénat. Les républicains y voient l'opportunité d'accentuer leur pouvoir de blocage aux politiques du dirigeant démocrate. Cette course sera aussi un test sur l'influence de Donald Trump qui cherche l'investiture du Parti républicain pour défier Joe Biden en 2024. Historiquement acquise aux républicains, la Géorgie a surpris l'Amérique en préférant Joe Biden à Donald Trump à la présidentielle de 2020, puis en envoyant 2 mois plus tard 2 démocrates au Sénat.
La France doit, en matière migratoire, dire qui on veut accueillir et qui on ne veut pas accueillir, a affirmé Elisabeth Borne ce mardi en ouvrant un débat sur l'immigration à l'Assemblée nationale. L'immigration zéro n'est ni souhaitable ni possible, pas plus réaliste que ne l'est une immigration dérégulée, a insisté la Première ministre en réaffirmant sa volonté de fermeté et d'humanité en la matière. Et puis une vaste opération internationale contre le commerce illégal d'espèces sauvages et de bois a conduit à des centaines d'arrestations, au démantèlement des réseaux criminels et à d'importantes saisies d'animaux, de plantes et de bois, a annoncé Interpol ce mardi. Voilà, on passe maintenant au MAG. Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouhamadou Oumfa toujours avec vous. Place au dossier du jour. En RDC, les sites miniers du Haut-Katanga attirent plusieurs personnes, dont des investisseurs et créateurs d'entreprises et creuseurs artisanaux. Plusieurs sites miniers sont envahis par des militaires, une situation dénoncée par les exploitants artisanaux et la société civile qui pointe de nombreux cas de violation des droits de l'homme. Reportage dans le Haut-Katanga de notre correspondant Alex Kati Kataï.
John est un jeune minier vivant à Lubumbashi. Il prend en charge une centaine de creuseurs artisanaux dans une carrière minière située à 70 km de la ville. En tant que supporter des creuseurs artisanaux, c'est lui qui doit revendre le produit de l'exploitation et partager les gains avec les creuseurs. Une activité organisée en coopérative. Cependant, depuis un moment, les exploitants artisanaux se plaignent de la présence des militaires sur les sites miniers.
Ces derniers temps, il y a un problème avec nos militaires. Ce sont les gens qui se sont ingérés dans les mines. Et ils commencent à intimider les gens. Ouais, ils commencent même à ravir les concessions d'autrui, les carrières d'autrui. Ils viennent vous chasser les creuseurs. Ils commencent à imposer les gens. Ouais. Ils mettent des barrières partout. C'est selon les codes miniers, ça n'existe pas.
Le Haut-Katanga, très riche en minéraux tels que le cuivre et le cobalt, est aussi sous menace des groupes armés locaux. Les Maïmaï Bakatagatanga sont les plus en vue. Bien que n'étant pas présents dans les sites miniers, leur seule existence constitue un motif de la présence de l'armée dans les sites miniers. Et ce sont les Chinois qui en profitent au détriment des artisanaux, affirment les exploitants.
Quand nous qui avons la coopérative, nous partons installer là-bas la coopérative avec tous les documents. Quand les gens voient que les produits commencent à sortir là-bas, ils viennent s'imposer avec les militaires. C'est-à-dire qu'ils commencent à collaborer avec les militaires pour manger ensemble. Ouais, ça, c'est un dire que nos militaires ici font chaque jour au Kakatanga. Ils nous chassent tous pour installer les Chinois là-bas, les étrangers chinois. Ouais, c'est ce qui est encore grave. Et puis sans documents.
Les ONG locales ont elles aussi tiré la sonnette d'alarme sur la présence des militaires dans les zones minières. C'est le cas d'AfriWatch, une ONG basée dans le Haut-Katanga et qui défend les intérêts des créateurs artisanaux. Emmanuel Oumpula d'AfriWatch.
Parmi les services de sécurité qui sont cités dans les côtes, c'est la police des mines qui est habilitée à amener de l'ordre dans les sites miniers. Donc je pense que c'est tout à fait logique que les citoyens ou les creuseurs fassent confiance à la police des mines et que la police des mines sécurise les sites miniers.
Il y a 4 mois, le gouvernement provincial du Haut-Katanga avait décidé du retrait de tous les militaires des zones minières. Seule la police des mines devrait continuer à sécuriser les carrières. Mais cette décision peine à être respectée. L'ONG Justicia appelle les autorités à prendre leurs responsabilités. Timothée Mbouya de Justicia ASBL.
Nous estimons que les autorités gouvernementales devraient tout mettre en œuvre pour faire exécuter ces mesures, d'autant plus que la candidature de la République démocratique du Congo comme pays membre au principe volontaire sur la sécurité et les droits de l'homme est en étude en ce moment au secrétariat général, mais aussi pour nous, le retrait des militaires et des policiers va aider à améliorer la situation sur les sites miniers dans les sites environnants, notamment en ce qu'il y aura diminution sensible des violations des droits humains.
L'évacuation des hommes en uniforme des sites miniers est toujours souhaitée par les autorités provinciales. Georges Mawina, ministre provincial des mines du Haut-Katanga, espère qu'avec le nouveau leadership au sein de l'armée, les choses pourraient changer dans un avenir proche. Alex Kati Kataï, de retour de Lubumbashi, pour VOA Afrique.
Le gouvernement camerounais félicite les autorités américaines pour avoir arrêté et inculpé 3 Américains d'origine camerounaise accusés de soutenir la violence séparatiste dans les régions anglophones. Le trio est accusé d'avoir collecté des fonds pour enlever des personnes et utiliser des armes dans un pays étranger. Reportage de Moki Edwin Kinzeka depuis Yaoundé. Le récit est de Lionel Gaïma.
Le Cameroun s'est dit soulagé par la décision du ministère américain de la justice d'inculper les personnes soupçonnées de soutenir la violence dans les régions anglophones où les forces gouvernementales combattent des groupes séparatistes depuis 5 ans. Pour John Billy Eko, inspecteur général au ministère camerounais des Affaires étrangères, l'arrestation des 3 citoyens américains d'origine camerounaise indique que les États-Unis ont compris que certaines personnes qui soutiennent le conflit séparatiste vivent aux États-Unis.
Nous restons prudents et vigilants car l'acte d'accusation n'est peut-être que la 3e phase d'un processus judiciaire qui a commencé avec la persistance de notre gouvernement à convaincre les autorités américaines de prendre des mesures contre les soutiens des séparatistes. Nous attendons donc le procès. Il y a beaucoup de conspirations et de complices non accusés aux États-Unis et ailleurs qui n'ont pas été cités dans cet acte d'accusation.
Les avocats camerounais aux États-Unis disent avoir déposé des plaintes contre 200 Camerounais et citoyens américains d'origine camerounaise qui sont soupçonnés d'être complices de la violence séparatiste. Le 28 novembre, le ministère américain de la Justice a arrêté et inculpé Claude Shi, Lan Nestor, Lang Mi et Francis Cheny, 3 citoyens américains d'origine camerounaise âgés d'une 40aine d'années. Les 3 prévenus sont accusés de conspiration visant à fournir un soutien matériel pour l'enlèvement des personnes et l'utilisation d'armes de destruction massive au Cameroun. Le ministère américain de la Justice affirme qu'en plus de 350 000 dollars qu'ils ont collectés par le biais des volontaires, les 3 hommes ont conspiré avec d'autres pour enlever les civils au Cameroun et demander une rançon. Dans certains cas, les citoyens américains se sont vus extorquer des rançons pour obtenir la libération de leurs proches kidnappés au Cameroun. Les rançons étaient ensuite transférées aux combattants séparatistes pour financer leurs opérations. Capo Daniel est le porte-parole du conseil de l'un des principaux groupes séparatistes de ce qu'ils appellent l'Ambazonie.
Nous avons examiné le dossier déposé par le procureur des États-Unis. Nous avions précédemment condamné les enlèvements contre rançon et l'utilisation des forces d'Ambazonie à des fins personnelles. Cette guerre reste la principale cause du chaos et de l'émergence de gangs et de cartels criminels qui cherchent à utiliser l'Ambazonie pour légitimer leurs activités criminelles.
Avant l'inculpation de la semaine dernière, Christopher John Lamora, ambassadeur des États-Unis au Cameroun, s'est exprimé sur la chaîne publique camerounaise CRTV.
J'ai vu beaucoup de vidéos où les gens appellent à la violence, où les gens suggèrent que tuer des élèves et les empêcher d'aller à l'école est en quelque sorte une approche valable. Ce n'est pas le cas. Les personnes de la diaspora vivant aux États-Unis ou ailleurs appellent depuis plusieurs années à l'arrêt de la violence. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Selon le ministère américain de la Justice, si les accusés sont reconnus coupables, ils risquent jusqu'à 15 ans de prison pour les accusations de soutien matériel, 3 ans de prison pour la réception d'argent provenant de rançons et de 20 ans de prison pour blanchiment d'argent. La date de leur procès n'est pas encore connue.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Togo, la problématique de l'agroécologie et des semences retient l'attention des acteurs du secteur. Face au rendement moyen des semences traditionnelles, les autorités penchent pour l'utilisation des semences améliorées importées. Ce n'est pas l'avis des organisations d'agriculteurs qui pointent du doigt les limites de ces semences importées et les dangers de leur adoption. De Lomé, le reportage de notre correspondant Kossi Oussou.
Si les autorités du Togo affirment que les OGM ne sont pas présents sur le territoire national, elles sont par contre favorables aux semences améliorées pour booster la production agricole et apporter un gain supplémentaire aux paysans. Essiomle Komi, directeur des semences agricoles et plants.
Il a été démontré que les semences de ferme ont leurs limites. Les rendements, c'est autour de 0,3-0,5 tonnes à l'hectare. Alors qu'avec les semences de variété améliorées, on peut aller à un minimum minimum de 6 tonnes à l'hectare pour le maïs, par exemple. Avec ça, vous voyez que c'est le coût de production sur l'hectare qui est réduit. Et partant, ça veut dire que le paysan gagne plus de l'argent.
Pour Simplice Agbavon, agroécologue, la problématique des semences paysannes ne saurait se réduire à la question de production. De plus, les semences dites améliorées qui ne sont pas produites sur place induisent une certaine dépendance des agriculteurs.
Si on veut vraiment être souverain alimentairement, contrôler notre système alimentaire, savoir produire, quand je veux produire, s'il n'y a pas de semences, donc je ne peux pas produire alors qu'il pleut. Alors s'il n'y a pas de semences dans les magasins, donc je ne peux pas semer. Mais ça ne va pas. Donc il faudrait que le paysan, à un moment donné, ait ses propres semences et qu'il arrive à vraiment cultiver, à utiliser des techniques qui lui permettent de progresser d'un rendement de 1 tonne à aller à 3 tonnes.
C'est l'homme Adoussi Wetonyon, point focal de la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain COPAGEN, estime que la problématique des semences paysannes va au-delà de toutes ces considérations.
Pour nous, les semences paysannes ne sont pas une simple question de semences, mais c'est une question de sécurité et de souveraineté alimentaire. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés, laisser les firmes décider de ce que nous devons manger, de comment nous devons manger, avec toutes les conséquences ou les impacts que cela peut avoir sur l'homme et sur son environnement.
Assimaru Sandou Nyasingbe, président de la Fédération nationale des organisations des maraîchers du Togo, demande tout simplement une reconnaissance de leurs semences de ferme qui, selon lui, sont plus vertueuses que celles dites améliorées et qui viennent d'ailleurs.
Ici, nous produisons des semences qui donnent de bons rendements. Il faut que la recherche reconnaisse ces semences-là pour que les producteurs aussi participent.
Un cadre de concertation nationale chargé de faire le plaidoyer auprès des autorités nationales pour la prise en compte de l'agroécologie dans les politiques agricoles vient d'être mis en place. Kossi Oussou, Lomé, pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
En Ouganda, un réfugié s'est lancé dans la protection de l'environnement après avoir fui la guerre au Soudan du Sud. Il a créé une organisation dans son pays d'accueil pour aider les jeunes réfugiés à travers des formations sur l'écologie et la sauvegarde de l'environnement. Les détails avec Thierry Kaoré.
Lorsque Opira Bosco Okot est arrivé au camp des réfugiés de Palambek dans le nord de l'Ouganda, il s'est vu allouer une parcelle de terrain afin de construire une habitation temporaire et d'avoir un peu d'espace pour cultiver. Mais les habitants utilisent le bois de chauffage pour cuisiner et coupent des arbres pour construire leurs abris, ce qui a entraîné une plus grande rareté des pluies et la diminution des rendements agricoles. Opira Bosco a donc décidé de s'engager dans l'activisme climatique à travers la formation des plus jeunes.
Je leur enseigne comment entretenir ces arbres, comment trouver un espace et planter, et comment faire pousser les arbres, et aussi comment limiter la destruction des arbres.
Son organisation, créée l'année dernière, soutient la communauté et aide également les enfants et les plus jeunes réfugiés à rester à l'école. Dans les classes, il dispense régulièrement des cours théoriques sur l'environnement et fait des démonstrations pratiques sur le terrain avec ses élèves. Jackie Amono fait partie des élèves ayant bénéficié de la formation.
J'ai appris de nombreuses façons de planter des arbres. Si nous plantons des arbres, nous pouvons rendre notre environnement plus beau.
La sécheresse s'installe dans la corne de l'Afrique et la concurrence pour les ressources naturelles de plus en plus rares s'est accrue entre les réfugiés et leurs hôtes. Opira Bosco lance donc un appel aux dirigeants.
What I believe they can achieve.
Ce que je crois que les dirigeants peuvent réaliser, c'est de mobiliser des ressources pour soutenir différents projets qui favorisent l'atténuation du climat. Ils peuvent parvenir à mobiliser des ressources et établir des partenariats, car c'est la meilleure façon d'obtenir des interventions différentes à plusieurs niveaux.
Alors que le monde vient de conclure ses objectifs climatiques à la COP27, M. Oko estime que les dirigeants devraient soutenir activement les personnes déplacées qui sont particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique.
Abdourahmane Dia avec vous.
Dans Washington Forum cette semaine, la force régionale de la CEDEAO pour combattre le djihadisme et pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel. À l'issue d'un sommet à Abuja, les chefs d'État ouest-africains ont annoncé que les chefs militaires des pays membres se réuniront le mois prochain afin de discuter des modalités de la mise en place de cette force dans une région minée par le terrorisme et les coups d'État. Cette force régionale est-elle la réponse à l'insécurité et l'instabilité institutionnelle en Afrique de l'Ouest? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
C'est déjà à la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouhamadou Oumfa. Ainsi va le monde aujourd'hui. Plus d'informations 24 heures sur 24, c'est sur notre site internet voaafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube et Twitter. Merci de rester à l'écoute de nos programmes. À plus tard.